Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Point de vue. À l'émission aujourd'hui, les amateurs de livres accourent à la méga bibliovente de Québec où des milliers de livres sont vendus au poids.
Au prix que sont, ça vaut à peine. Hein? Ça coûte rien lire. Ça fait du bien.
Le Paris Saint-Germain remporte la Coupe de la Ligue des champions à Munich. La joie des amateurs francophones résonne jusqu'à Toronto.
Ah, merci Paris, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein.
Que de la joie, que de la joie, que de la joie. Là, on va aller fêter ça, là.
C'est la première fois, c'est ça le bonheur, en fait. C'est ça le bonheur.
De la Floride à Tinte-à-la-Baleine, un couple de retraités vient prêter main forte à l'école du village.
Je suis à ma 11e année de retraite, sauf que là, j'ai repris le collier.
J'ai toujours aimé enseigner.
Pat Aymon est philatéliste depuis 45 ans. Il partage sa passion avec les publics de la bibliothèque de Kedgewick.
Avant la Confédération, les provinces avaient leur propre système postal, comme le Nouveau-Brunswick a émis une quinzaine de timbres, 13 timbres, je pense.
Les inspecteurs de l'édition québécoise du Guide Michelin récompensent 76 restaurants, dont chez Mathilde, à Tadoussac.
C'est vraiment une joie extraordinaire. C'est toute la Côte-Nord qui va rayonner par rapport à ça, tu sais.
Et grosse manif pour le pont du Centenaire à Miramichi, les citoyens veulent des trottoirs.
Des trottoirs, ça fait partie de la vie active, ça lie nos communautés ensemble de Douglastown puis Chatham, ici à Miramichi, donc c'est vraiment important.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Bonjour et bienvenue à l'émission Point de vue. Boris Chassaigne avec vous pour la prochaine demi-heure. Et oh, qu'on a une émission chargée aujourd'hui, il nous aurait fallu une heure. Bien, on va droit au but pour vous parler de foot en ouverture. La communauté francophone de Toronto est en liesse après la victoire du Paris Saint-Germain. Ce club français de soccer, de foot, a remporté la finale de la Ligue des champions le 31 mai à l'Allianz Arena de Munich. Il s'est imposé par la marque de 5-0 face à l'Inter Milan. Le PSG décroche ainsi sa toute première Ligue des champions 55 ans après sa création officielle et devient donc ainsi le deuxième club français à soulever ce qu'on appelle la prestigieuse coupe aux grandes oreilles après l'Olympique de Marseille en 1993. Un sacre historique célébré jusqu'à Toronto, Annette Minka n'a pas raté sa chance d'y être.
L'équipe française de soccer, le Paris Saint-Germain, a enfin soulevé la Ligue des Champions pour la première fois depuis la création officielle du club en 1970. Après des tentatives infructueuses, notamment depuis l'ère Qatari entamée en 2011, les joueurs de Luis Enrique ont décroché la coupe aux grandes oreilles le 31 mai dernier à l'Allianz Arena de Munich. Un exploit historique salué dans le monde entier jusqu'à Toronto, où les partisans du club parisien se sont rassemblés au Friard, un bar situé sur John Street, fief du fan club officiel du PSG dans la ville Rennes. Dès la première minute de jeu, le ton est donné. Dans ce bar transformé en antre parisienne, les supporters donnent de la voix en entonnant « Tous ensemble, on chantera » le chant des supporters devenu hymne officieux du club. À l'avant du bar, les anglophones vibrent à leur manière. À l'arrière, les francophones et quelques anglophones font résonner leur ferveur. À chaque but du PSG, les cris s'intensifient. Sur la pelouse, les Parisiens dominent l'Inter Milan sans trembler. Dans le bar, les supporters ne lâchent rien jusqu'au coup de sifflet final. C'est la délivrance, un rêve devenu réalité, une victoire historique qui en laisse certains sans voix.
Ah merci Paris, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein.
Que de la joie, que de la joie, que de la joie.
Ah ouais,
ah ouais, 5-0. Première victoire, 5-0 en plus, personne ne s'y attendait, 5-0, c'est quand même un score élevé quand même pour une finale. On est content. Depuis petit, on supporte le PSG, là on gagne, c'est mémorable.
Là on va s'en rappeler.
Là on va aller fêter ça là.
Mais d'autres ont trouvé les mots, ou plutôt ont laissé parler leur cœur.
Indescriptible, après tant d'années comme on chante,
après tant d'années de galère de combat. Là, j'ai du mal à y croire.
Ouais, très facile. Beaucoup d'opportunités, beaucoup de pressing. Franchement, merci Luis Enrique pour tout ça. On l'aime d'amour et j'espère qu'il reste le plus longtemps possible au PSG. Et on espère chercher la deuxième étoile le plus rapidement possible. Ici, c'est Paris.
Première, c'est historique. On a trop souffert. On a trop souffert. Je sais pas d'où on revient, mais voilà. Une manité en finale. Ah, ça fait trop plaisir.
Là, les larmes, elles montrent tout ce que j'ai vécu depuis que je suis supportrice parisienne. Là, on pleure de joie. C'est la première fois. C'est ça le bonheur, en fait. C'est ça le bonheur. C'est une vraie équipe. Là, ce qu'on a vu. Merci, Luis Enrique, pour ce que tu as fait avec cette équipe.
Je voulais tous vous remercier d'être venus aujourd'hui.
Une ambiance familiale et électrique menée par Olivier de Bréjas, l'un des fondateurs du fan club torontois du Paris Saint-Germain.
Je suis supporter depuis 1987. Donc pour moi, c'est historique. C'est historique ce qui vient de passer. J'ai même pas de mots. J'ai perdu ma voix et je suis content. Je suis content et je pense que je vais pleurer très fort. On a vu une vraie équipe qui s'est soudée au fur et à mesure du temps cette année. Il y a eu une équipe au début de la saison en 2024. Il y a eu une équipe en 2025. Et ça finit en apothéose parce qu'on soulève la plus grande coupe avec les grandes oreilles comme on l'appelle. Mais c'est le trophée majeur de toute la planète. Le PSG a été incroyable. C'est ça qui s'est passé. On était à la mesure de notre jeu. L'adversaire, on l'a respecté. Et d'ailleurs, on l'a respecté tellement qu'on lui en a mis 5.
5-0, un score sans appel. Le PSG a maîtrisé son sujet de bout en bout. Il devient ainsi le deuxième club français de l'histoire à remporter la Ligue des Champions après l'Olympique de Marseille en 1993. Les festivités se sont poursuivies à Nathan Phillips Square, devant l'hôtel de ville de Toronto, où des dizaines de francophones ont célébré ce moment historique. C'était un reportage d'Annette Minka pour l'initiative de journalisme local à Toronto.
La Bibliothèque de Québec a la semaine dernière tenu la plus grande vente de livres usagés de la province. Des milliers de livres y étaient vendus au kilo. Dès l'ouverture jeudi, des centaines de lecteurs profitaient des ouvrages à petit prix exposés dans les étals du Centre de foire d'Exposité. L'événement biannuel de la méga bibliovente permet au réseau de la Bibliothèque de Québec de libérer de l'espace et de financer une partie de ses nouvelles collections sur place à l'Isse.
Les amateurs de livres sont nombreux, ce jeudi après-midi, au centre de foire d'Exposité. Dès l'ouverture de la méga bibliovente de la Bibliothèque de Québec, des centaines de passionnés empilent les ouvrages, dans des boîtes, des chariots, des poussettes ou même des glacières. Lynn, une grande lectrice, vient à toutes les éditions.
Ben c'est pas le seul, on a 3-4, allez, on a Lévis, on a Québec, j'ai cours tout. Mais sais-tu quoi, je reviens demain aussi, parce que j'ai pas le temps de tout faire. Au prix que sont, ça vaut à peine. Hein? Ça coûte rien lire. Ça fait du bien.
Plusieurs sont en famille, comme Marie-Pierre et sa fille, qui profitent de la grande vente pour acheter des livres jeunesse.
Je pensais regarder un peu pour moi, puis finalement, je pense que je vais laisser faire. Fait que j'en reviendrai pour moi dans les prochains jours.
Le directeur des collections de la Bibliothèque de Québec, Éric Terrien, se réjouit de l'engouement des lecteurs pour cette 12e édition, alors que les écrans occupent une place grandissante au quotidien.
Il y a quand même toujours une petite crainte. Bon, ben, est-ce que c'est cette année qu'on va sentir que ça s'essouffle un petit peu? Mais on n'est jamais arrivé à cette année-là où on a senti que ça s'essoufflait. Au contraire, ça a même la dernière édition, il y a 3 ans, on a fait notre record de tous les temps en termes d'achalandage, en termes de livres qui ont trouvé preneur et tout ça. Donc, il y a encore un intérêt qui est très, très marqué pour le papier. Puis, on a des grands lecteurs aussi dans la région de Québec. Puis, on le sent aussi dans les bibliothèques, là.
À la méga bibliovente, ce sont plus de 200 000 livres, mais aussi quelques jeux de société et jeux vidéo qui sont vendus au kilo pour faire de la place dans les bibliothèques de Québec.
Vous avez combien de kilos?
Combien de kilos? J'ai aucune... 19!
19 kilos?
Hein? Pour les enfants, c'est pas pire, ça revient moins cher. Ouais,
et les ouvrages proposés sont de qualité, tient à préciser Éric Terrien.
Rose à Lille, par exemple, une super bande dessinée de Rabagliati. Mais Rosalie, ça a été extrêmement populaire dans la Bibliothèque de Québec, mais on avait des centaines et des centaines de réservations. Donc, on a acheté des quantités astronomiques de Rosalie. Mais après un an, deux ans, ben on peut pas garder 25 copies d'un même titre dans chaque bibliothèque. Donc, il faut réduire la quantité. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on n'aurait pas le potentiel encore de circuler ou qu'ils ne sont pas encore intéressants. C'est juste qu'il faut faire de la place pour la nouveauté. C'est plusieurs dizaines de milliers de nouveaux documents qu'on acquiert chaque année. Et puis, ben, nos bibliothèques sont à pleine capacité. Donc, obligatoirement, il faut retirer des documents.
Pendant 4 jours, les étals sont regarnis de livres et les prix diminuent de 4 à 2 $ le kilo. Les ventes permettront de financer de 5 à 10 % du prix des nouvelles collections qui seront disposées dans les 26 bibliothèques de Québec. Mais l'objectif n'est pas financier, souligne Éric Thérien.
Bien, c'est une façon de redonner aussi à la collectivité. C'est un bien commun qu'on a, les documents de la Bibliothèque de Québec. Donc, c'est avec la contribution des résidents de la Ville de Québec, le gouvernement du Québec et tout ça. Donc, ça permet de redonner une vie, un second souffle à ces documents-là à petit prix. Là. Et puis, bien, ensuite, on souhaite disposer de ces documents-là de façon responsable aussi, de façon éco-responsable. Donc, un des moyens d'atteindre cet objectif-là, c'est de remettre ces documents-là en circulation dans les mains du public. Donc, plutôt que de juste en disposer ou de les envoyer directement au recyclage et tout ça. Donc, c'est une façon de redonner une vie aux documents qu'on retire.
À la dernière édition, en 2022, ce sont 160 000 ouvrages qui ont été vendus avec 22 000 visiteurs. Les invendus sont remis à la Fondation internationale des cultures à partager, un organisme qui expédie des livres dans des pays en développement de la francophonie. Alice Zanetta pour IJL à Québec.
Vous écoutez Point de vue avec Boris Chassagne.
De la Floride, à tête à la baleine, un couple de retraités vient prêter main-forte aux 8 élèves de l'école Gabriel Dionne. Ces élèves rencontraient donc leur nouveau prof, avec qui ils termineront maintenant l'année scolaire. Gaëtan Gagnon et Michel Deschamps sont à la retraite depuis des années, mais ils ont décidé de quitter leur bateau de la Floride pour aller s'établir au nord-est du Québec et ainsi combler les postes de ces vacants à tête à la baleine. Frédéric Lévesque les a rencontrés à la fin de leur journée de travail pour en apprendre davantage sur ce qui a motivé leur décision.
Gaëtan Gagnon et Michel Deschamps, c'est le couple d'enseignants arrivés depuis 3 semaines à tête à la baleine. Ils sont tous les deux sortis de leur retraite pour terminer l'année scolaire avec les élèves de l'école Gabriel Dionne. Gaëtan Gagnon prend le relais de l'enseignement à la suite du départ du professeur arrivé en novembre 2024. Michel Deschamps fait actuellement de la suppléance. Michel a été enseignante au primaire et en maternelle. Elle connaît bien la réalité des petites écoles.
C'était souvent des regroupements d'élèves de maternelle. Il y avait des 4 ans même dans ma classe aussi, partout, des certaines années. Jusqu'à la 6e année. Il y avait des nénés, il y avait une 30aine d'élèves en tout, répartis dans tous les niveaux. Donc, on a travaillé beaucoup en équipe, intergroupe comme ça, là, entre les groupes. Donc, je me retrouve un peu avec ça ici à tête à la baleine et j'apprécie beaucoup. Travailler avec plusieurs âges. Là.
De son côté, Gaëtan a plutôt fait carrière au secondaire. Avant de devenir enseignant, Gaëtan nous informe qu'il était travailleur social. Il a travaillé pour le directeur de la protection de la jeunesse.
Quand Michel avait les petits qui étaient tout gung-ho pour apprendre, moi, je me retrouvais avec les adolescents qui étaient plus difficiles à motiver, pour qui l'école leur plaisait moins, souvent. J'ai fait 25 ans au secondaire. J'ai enseigné à peu près toutes les matières parce que je m'occupais surtout d'élèves en difficulté. Donc, j'ai beaucoup d'expérience avec les ados. J'ai fait ça toute ma vie.
Il est à la retraite depuis 2014.
Je suis à ma 11e année de retraite, sauf que là, j'ai repris le collier.
Michel et Gaétan nous expliquent que depuis plusieurs années, leur mode de vie de retraité était de partir en Floride à l'hiver. Le contexte politique actuel les a motivés à rester au Québec l'an prochain.
Parce que nous, on était des snowbirds. Hein? On habitait sur notre bateau 6 mois par année en Floride. J'ai moins le goût d'y aller là, à l'automne prochain. T'sais, je me disais, ben, tant qu'à me geler les faufounes, au Canada, au Québec, pourquoi pas de travailler puis gagner un peu d'argent en le faisant. On a encore le goût, puis je me sens encore en forme, et puis je pourrais contribuer.
J'avais toujours aimé enseigner. J'avais comme pris ma retraite un peu du reculon. J'aimais toujours ça. Et puis, quand l'occasion s'est présentée, pourquoi pas, j'aime ça. C'est en plein niveau où j'aime travailler. Puis, c'était de la suppléance. Je m'engageais pour faire de la suppléance, mais là, je suis là jusqu'à la fin de l'année, finalement.
Le parcours de vie du couple est parsemé d'aventures. En 1973, le couple achète un bateau à Percé, un Doris de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur lequel le couple navigue pendant 6 mois dans la baie des Chaleurs. En 1975, Michel et Gaétan font l'acquisition d'une ferme dans le bas du fleuve Saint-Laurent, dans le comté de Témiscouata.
On connaissait la mer, on connaissait le bois Saint-Laurent, on connaissait la rive sud du golfe, mais la côte nord, c'était tout nouveau. J'étais déjà allé, moi, à quelques reprises, à Bécomo, Saint-Siméon, Rivière-du-Loup, Matane, Godbout. J'avais un peu été sur la Côte-Nord, mais jamais sur la Basse-Côte-Nord. Jamais.
Oh non, c'est une première.
C'est une première.
Leur aventure se poursuit donc avec l'opportunité de travail dans l'enseignement ici, à Tête à la Baleine.
On est parti de 30 degrés hein, en Floride. On a pris 3-4 jours pour revenir dans le Pontiac, parce que nous, on est établi dans le Pontiac depuis maintenant près de 40 ans.
C'est l'ouest de la province.
C'est ça, à l'ouest de la province, dans l'Outaouais. Et puis, c'est ça, on a passé 4 jours à la ferme, parce qu'on a encore une ferme dans l'Outaouais. Et là, on a pris la route pour s'en venir à Tête à la Baleine. L'accueil des gens, c'est incroyable. C'est un petit village. On vient, nous aussi, de petits villages. Ouais. Donc, tu sais, on n'est pas étrangers au petit village, mais ici, c'est vraiment l'accueil chaleureux.
Ouais. Ici, la ville est plus loin, par exemple.
Ah oui, ici, la ville est plus loin.
C'est mon premier tour d'hélicoptère pour me rendre ici. Ça, c'était toute une aventure.
Natif du nord de l'Ontario, le couple se dit parfaitement bilingue. C'est leur expérience et leur côté bohème, pour reprendre leurs mots, leur donne confiance dans leur nouveau mandat. Gaétan et Michel anticipent quand même certains défis.
L'hiver me fait un peu peur.
C'est sûr qu'il va falloir que je travaille étroitement avec la communauté pour faciliter l'intégration de mes jeunes qui sont en intégration, en francisation, etc. Donc ça, c'est sûr que je vais avoir besoin de l'appui de la communauté dans ce sens-là.
C'était Frédéric Lévesque à Tête à la Baleine pour l'IGL.
Des questions, commentaires ou suggestions? Écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca.
On se rend maintenant à Miramichi, au Nouveau-Brunswick, où la météo du dimanche 1er juin n'a pas fait reculer la centaine de manifestants venus protester contre la décision du ministère des Transports et de l'Infrastructure de la province, ce ministère qui a décidé de retirer les trottoirs du projet de réfection du pont centenaire. Plusieurs politiciens, surtout de la famille conservatrice, se sont joints à eux. Les détails avec Vincent Lavoie.
Une centaine de personnes ont bravé les éléments dimanche après-midi pour participer à la manifestation qui dénonce la décision du ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick de retirer l'aménagement d'un trottoir sur le tracé du pont centenaire.
I heard a lot of people talking about not being happy about not having a sidewalk. And
Sadie Rose a organisé l'événement via un groupe Facebook où se sont ralliées plus de 400 personnes. Elle estime que si la météo était plus clémente, davantage de personnes se seraient déplacées.
This is people's lives. There's no amount of money that's going to fix that. There's federal funds that are going in this. There's provincial funds that are going in this. And it has to be put in.
C'est révoltant que le gouvernement libéral sabote une entente que notre gouvernement avait conclue, confie la députée progressiste conservatrice de Miramichi-Est, Michelle Conroy. Elle dénonce également le fait que le seul représentant local du gouvernement, Sam Johnson, ne soit pas présent. Le député a accepté de fournir un petit commentaire.
J'ai suivi l'activité sur les médias sociaux, j'ai appuyé les gens, j'ai appuyé le dossier et je ferai de mon mieux de trouver une solution pour tout le monde.
La conseillère municipale Véronique Arsenault avait également d'autres engagements. Elle était dans la capitale fédérale pour la Convention des municipalités canadiennes.
C'est difficile à travers le Canada. J'ai entendu ça la semaine passée au congrès des municipalités. Mais de plus en plus, les communautés doivent être accessibles et garder le trottoir sur notre pont. C'est vraiment quelque chose qu'on doit se mettre à la tête que c'est essentiel.
Le chef intérimaire du Parti progressiste conservateur Glenn Savoie s'est déplacé depuis Saint-Jean pour prêter main forte à sa députée.
C'était là à l'époque, mais maintenant c'est enlevé à cause de décisions de ce gouvernement. Alors c'est triste, c'est dommage, mais c'est quelque chose, c'est pour la sécurité des gens. Les gens vont marcher continuellement sur le pont. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement veut enlever les trottoirs? Est-ce que c'est les coûts? Je ne sais pas, parce que selon eux, les trottoirs ne sont pas dans le plan, mais nous savons différent.
L'ancien député progressiste conservateur de Moncton-Est, Daniel Alain, a fait la route pour assister à la manifestation.
Je suis un individu qui croit beaucoup dans la vie active, puis des trottoirs, ça fait partie de la vie active, ça lie nos communautés ensemble de Douglastown puis Chatham, ici à Miramichi, donc c'est vraiment important de dire aux gens du gouvernement que la vie active est importante, puis c'est important, je crois, pour tout le Nouveau-Brunswick.
Le nouveau député conservateur pour la circonscription fédérale de Miramichi-Grand Lake, Mike Dawson, s'est déplacé en guise de soutien.
The residents of Miramichi deserve better. It was in, when I was provincial MLA, the sidewalk was in the plans, and there was funding there from the federal government to put the sidewalk on. Since October, since the new Liberal government went in, they decided they're going to squash the sidewalk and take the sidewalk off the bridge. So it's an important, vital piece for Douglastown and Chatham to connect people back and forth to get across the river.
À l'instar de ses collègues, il insiste sur le fait qu'un trottoir est essentiel pour les municipalités de Chatham et Douglastown. Il s'explique mal pourquoi le gouvernement a fait volte-face sur le dossier. Peu de temps avant le début de la manifestation, le sergent Ed Goodfellow a pu échanger avec l'organisatrice afin de rendre la manifestation aussi pacifique et sécuritaire que possible.
People want to protest. We respect that right, obviously. Whether or not we agree with it is of no consequence. We're here to maintain public safety and make sure everybody does things in a safe manner. We're going to provide whatever services are required to make this as good an event as can be.
Il affirme que c'est le droit de tous de manifester tant que le tout est effectué de façon sécuritaire. À cet effet, tous les manifestants ont été priés de demeurer sur le trottoir du pont centenaire tout au long de l'itinéraire. Somme toute, les automobilistes ont été très conciliants. Plusieurs coups de klaxon ont été entendus en guise de soutien et plusieurs ont réduit leur vitesse. Pour l'organisatrice de la manifestation, Sadie Rose, ce n'est que le début. Selon elle, la décision du ministère viole la loi canadienne sur l'accessibilité, ce qui pourrait alimenter des actions en justice. Ici Vincent Navoie pour IJL à Miramichi.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chitika en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue.
Pat Aymon collectionne des timbres depuis près de 45 ans et cette passion, il l'a partagée le 3 juin dernier avec d'autres curieux à la bibliothèque de Kedgewick. Il y a présenté une grande variété de timbres issus de plusieurs pays et époques et même des pièces très rares témoignant de l'évolution du service postal au pays et des événements qui ont marqué l'impression de certains des timbres qui font partie de sa collection. Une collection qui comprend des trésors vraiment uniques Québec, dont un timbre de 1851, émis par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, un véritable bijou pour les amateurs d'histoire postale. Sébastien Ladouceur l'a rencontré. Ici, un extrait de sa conversation.
Ah, ben tu sais, quand on était jeune, on essayait de collectionner toutes sortes de choses, là, puis à un moment donné, j'ai été initié en partie par un de mes frères qui avait commencé une collection de timbres quand il travaillait dans le Nord. Après ça, par des amis qui, à un moment donné, il y avait un des voisins là, qui avait une collection de timbres. Ça m'a piqué ma curiosité. Et j'ai commencé à collectionner les timbres un peu comme ça, à cause des autres. De plus en plus, ben, il y a des gens qui ont commencé à ramasser pour moi. Je me souviens aussi qu'en première année, là, les professeurs, les religieuses nous demandaient d'apporter des vieux timbres, là, puis ils disaient que c'était pour l'émission. On se demandait bien ce qu'ils faisaient avec ça, mais en réalité, c'était pour revendre à des... pour ramasser des sous, et ben, revendait ça à des vendeurs de timbres. Là. Comme moi, je collectionne surtout des timbres canadiens. C'est peut-être un millier, 1000 timbres, 1500 timbres dans des albums. Là. Ils sont inscrits dans les catalogues de timbres. Là.
Dans la collection présentée, un timbre de 1851, des timbres uniques.
Il y a beaucoup de monde qui ne sont pas au courant que avant la Confédération, les provinces avaient leur propre système postal, comme le Nouveau-Brunswick a émis une quinzaine de timbres, 13 timbres, je pense. Le Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, émettait des timbres. La Colombie-Britannique, ça a tout commencé pas mal en 1851. Je possède un timbre de 1851 du Nouveau-Brunswick, mais il y a un défaut. Parce que il faut dire que ces timbres-là, la plupart de ces timbres-là, valent pas mal d'argent. Ça fait c'est rare qu'on va en trouver un spécimen, là, comme tous les collectionneurs. Ils veulent la plupart avoir des sujets qui sont parfaits, là. Mais le mien, ben, il y a un petit coin qui est déchiré, là. Mais quand même, c'est le plus vieux thème que j'ai.
Sébastien Ladouceur, Kedgwick, IGN.
Alors, on se rince les yeux avec les timbres de Pathémon et les papilles au restaurant chez Mathilde. Les inspecteurs de la première édition québécoise du Guide Michelin ont dévoilé le 15 mai dernier leur liste des 76 meilleurs restaurants du Québec. Parmi eux figure le restaurant chez Mathilde à Tadoussac, le seul représentant de la Côte-Nord. Cette sélection est une grande victoire, évidemment, pour le restaurant, comme pour ses partenaires, pêcheurs et éleveurs, notamment, qui fournissent des produits locaux, donc, à ce restaurant. Les deux copropriétaires de chez Mathilde, Jean-Sébastien Sicard et Mireille Perron, sont évidemment ravis. Maxime Jaudoin a recueilli leurs commentaires.
C'est une reconnaissance. Écoute, tu sais, ça fait 18 ans qu'on travaille. Moi, dans la cuisine, j'ai évolué tranquillement pendant 18 ans. J'ai fait mes classes. Jamais allé plus loin que ce que j'étais capable, mais toujours de pousser, d'aller chercher le plus possible, tu sais, les super contacts, les super pêcheurs, tu sais, pour arriver à faire une cuisine de haute gastronomie. Que c'est vraiment une joie extraordinaire. Tu sais, en plus du restaurant, en plus de Tadoussac, mais c'est toute la Côte-Nord qui va rayonner par rapport à ça, tu sais. Parce que notre mandat à nous, c'est vraiment ça, c'est de faire, on est une cuisine nord-côtière. On est 100% aliments du Québec parce que on sait exactement qui fait quoi. Mais en plus de ça, on peut se dire qu'on est 55 à 65% nord-côtier. Parce que c'est vraiment ça notre fierté.
Évidemment, je pense que ça va faire venir un tourisme gourmand. Puis le fait qu'on est les seuls de la Côte-Nord et sur la rive nord, en fait, du fleuve Saint-Laurent, ça, c'est pas rien.
Puis en plus, ben nous, avec la mention du Guide Michelin, là, on a vu une augmentation d'environ 30% sur les réservations. Là. Un super été, ça va être très intense.
Merci à Maxime Jaudoin pour cet extrait, son reportage complet sur fréquenceinfo.ca. Et bien voilà, c'est tout pour nous à Point de vue. Merci à nos journalistes que sont Vincent Lavoie, Lisa Netta, Annette Minka, Sébastien Ladouceur, Maxime Jaudoin et Frédéric Lévesque. Julia Chénu, rédactrice nationale. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire et l'Initiative de journalisme local. Boris Chassagne avec vous qui vous remercie d'être là chaque semaine. À bientôt. Ciao.
à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.